principe actif, actif par principe, 102.4 FM.
Vous écoutez RFI, les 7h à Beyrouth, minuit à Bogota et 6h à Paris.
RFI Matin,
Andréane Mélard.
L'heure du journal. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
L'armée israélienne ouvre un nouveau front dans l'est du Liban.
Avec un débarquement de troupes au nord de la plaine de la Beka, on est en direct de Beyrouth dès le début de cette édition. On parle aussi de l'Iran, où le successeur du guide suprême Ali Khamenei a été annoncé. Il s'agit de son fils, Mojtaba. Et puis on évoquera la visite du président français, Emmanuel Macron, attendu à Chypre aujourd'hui, alors que les Européens renforcent leurs moyens dans ce contexte de guerre. Dans ce journal également, les premiers résultats en Colombie après les législatives d'hier, la gauche est en tête. L'ouverture aujourd'hui à Paris du procès qui vise la compagnie aérienne Swift Air, jugée pour homicide involontaire après le crash d'un avion Air Algérie en juillet 2014. Et puis une victoire au moins provisoire pour les salariés de la radio Voice of America. Un tribunal fédéral estime que son démantèlement par l'administration de Donald Trump était illégal.
L'armée israélienne annonce à nouveau ce matin avoir frappé la capitale libanaise, Beyrouth.
Et elle affirme une fois de plus s'en être pris à des infrastructures appartenant au Hezbollah. Ça dure depuis une semaine maintenant. En représailles à une attaque du mouvement chiite libanais qui disait vouloir venger la mort du guide suprême iranien. Et l'armée israélienne a aussi ouvert un nouveau front dans l'est du Liban. De violents combats ont éclaté peu après minuit dans une zone montagneuse à la frontière avec la Syrie. On vous retrouve à Beyrouth, Paul Ralifé. Paul, le Hezbollah et des médias locaux font état d'un débarquement de troupes israéliennes au nord de la plaine de la Beka.
Oui, Gaëtan, le débarquement des troupes s'est produit dans une zone escarpée de la chaîne de l'anti-Liban, qui marque la frontière entre le Liban et la Syrie. Le Hezbollah indique dans un communiqué qu'une quinzaine d'hélicoptères se sont introduits au Liban en provenance de l'espace aérien syrien. Deux des appareils ont débarqué des troupes d'infanterie pas loin de Nabichit, dans la même région où un débarquement similaire a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Cette région se situe à 65 kilomètres du mont Hermon, le point le plus proche de la frontière libano-israélienne, et à 20 kilomètres au sud de la ville de Baalbek. Le Hezbollah et des correspondants locaux de la presse libanaise affirment que de violents combats ont éclaté entre les troupes débarquées et des combattants du parti déployés dans la région. Les affrontements aux armes légères et moyennes et aux lance-roquettes ont duré toute la nuit et se poursuivaient à l'aube. Le Hezbollah affirme avoir abattu à l'aide d'un missile sol-air un hélicoptère israélien, mais l'information n'a pas été confirmée par des sources indépendantes. Israël pense que le parti chiite dispose de bases souterraines de lancement de missiles lourds dans la chaîne de l'anti-Liban.
Paul Ralifé, correspondant de RFI à Beyrouth, et cette accusation ce matin de l'organisation Human Rights Watch. Elle affirme qu'Israël a utilisé illégalement du phosphore blanc sur des zones résidentielles dans le sud du Liban. Une substance qui s'enflamme au contact de l'oxygène et qui peut donc être utilisée comme une arme incendiaire.
L'armée israélienne annonce aussi, Gaëtan, avoir lancé une nouvelle série de frappes en Iran.
Contre des infrastructures du régime, nous dit-elle, dans le centre du pays. Téhéran dit de son côté avoir procédé à des salves de missiles vers Israël. Ce sont les premières depuis l'annonce du nouveau nom du guide suprême, Mojtaba Khamenei. Il succède à Ali Khamenei, son père, tué au premier jour de l'attaque lancée par les États-Unis et l'État hébreu. Les gardiens de la révolution, les forces armées ainsi que la police lui ont immédiatement prêté allégeance. Pour Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut géopolitique européen, le régime veut ici affirmer une forme de continuité et de normalité.
Désigner un successeur en si peu de jours, c'est une volonté manifeste de la part du régime iranien, avant tout de montrer qu'il est toujours bien installé et que cette structure ancienne et extrêmement à la fois bureaucratique, organisée et verticale fonctionne toujours. De toute façon, depuis des années, ce fameux conseil savait très bien que Khamenei avait un certain âge, qu'il était malade et qu'il avait plus une portée symbolique véritablement qu'une fonction exécutive. Donc il y a un certain nombre de personnes qui se sont évidemment préparées à la tâche, et donc le fait de nommer si rapidement un successeur à Khamenei, c'est avant tout continuer à marquer le régime et surtout le pays de cette empreinte et de cet ADN des gardiens de la révolution islamique, et montrer que tout continue à fonctionner entre guillemets à peu près normalement.
À propos recueilli par Mathias Troude, toujours est-il qu'avant même l'annonce de la nomination de Mojtaba Ramanaï, Israël avait prévenu cette semaine que le prochain guide suprême serait une cible.
Et l'Iran continue de s'en prendre à ses voisins du Golfe.
Affirmant viser des positions américaines et les pays d'où partent des missiles qui viennent ensuite frapper la République islamique. Les Émirats arabes unis disent ce matin que leurs systèmes de défense aérienne sont en train de réagir à une attaque. L'Arabie Saoudite annonce, elle, avoir abattu 4 drones qui se dirigeaient vers un champ pétrolier. Un autre drone a blessé 32 civils à Bahreïn, selon le ministère de la Santé.
Ces drones de fabrication iranienne, l'Ukraine les connaît bien.
Et Moscou lui en a envoyé des dizaines de milliers depuis le début de l'invasion russe il y a 4 ans. Alors Kiev dit savoir comment les intercepter et veut faire profiter de son expérience en dépêchant des experts au Moyen-Orient cette semaine. Correspondance à Kiev d'Emmanuel Chaz.
Ce son est celui de la défense antiaérienne ukrainienne au-dessus de Kiev. Et ce bourdonnement, celui d'un drone kamikaze. Chaque nuit, ils sont lancés par dizaines et parfois par centaines par les Russes au-dessus de l'Ukraine. Selon les autorités, la défense ukrainienne en intercepte désormais entre 70 et 90%. C'est cette expertise qui est désormais recherchée par les alliés de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky annonce qu'il est prêt à les aider.
Nous avons eu des messages pour qu'on aide les gens, les civils au Moyen-Orient et aussi pour aider les soldats américains qui sont sur des bases militaires dans certains pays. Et on a dit qu'on enverrait des experts, qu'on leur fournirait tout ce dont ils ont besoin pour être sauvés.
Et si des experts ukrainiens vont être dépêchés au Moyen-Orient dès cette semaine, Kiev espère que cette aide lui sera également bénéfique et que l'Ukraine recevra des moyens supplémentaires pour assurer sa propre défense.
Nous aimerions beaucoup que cela soit une opportunité pour les deux parties. Vous savez de quelles ressources nous manquons et nous comprenons quelles ressources manquent aux pays du Golfe. Nous parlons donc aussi de cet aspect.
Il y a un an, Donald Trump fustigeait Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale en lui disant qu'il n'avait pas de carte à jouer. Mais depuis que Washington doit faire face aux drones iraniens et forte de son expertise, l'Ukraine tient désormais une place stratégique en matière de défense antiaérienne. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et c'est aussi dans ce contexte que les Européens tentent de renforcer leurs moyens, surtout qu'un État membre de l'UE a été frappé par des drones et des missiles la semaine dernière, Chypre, où une base britannique a été touchée. D'où l'importance donc de renforcer la sécurité en Méditerranée orientale. C'est le sens de la visite du président français Emmanuel Macron ce lundi à Chypre justement. Valérie Gasse nous en parle.
Se rendre à Chypre, c'est une manière pour Emmanuel Macron de montrer sa solidarité et sa préoccupation. Lui qui n'avait pas été informé par les États-Unis et Israël de leur attaque contre l'Iran, essaie depuis d'honorer les accords de défense avec ses partenaires de la région, d'assurer la sécurité des bases militaires et des ressortissants français sans entrer dans le conflit. Emmanuel Macron a déjà décidé le renforcement des capacités militaires françaises dans la zone. Il s'est entretenu avec la plupart des dirigeants concernés par la guerre, rien qu'hier, avec ceux du Qatar, d'Égypte, du Koweït, d'Azerbaïdjan, des États-Unis, d'Iran, une intense activité diplomatique qu'il va donc continuer en face à face avec le président chypriote et le premier ministre grec, avec lesquels il évoquera la coordination des partenaires européens, par exemple, en matière de rapatriement de leurs ressortissants ou concernant la question prioritaire de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, bloqué depuis le début du conflit et qui fait grimper le prix de l'essence. Et puis Emmanuel Macron va aussi envoyer aux Français l'image d'un président qui agit pour tenter de trouver le chemin de la escalade, encore lointain au vu de l'intensité des frappes des deux côtés.
Et Valérie évoquait, Emmanuel Macron s'est notamment entretenu hier avec le président américain Donald Trump, mais aussi avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, à qui il dit avoir demandé d'arrêter immédiatement ses frappes contre les pays de la région et de cesser de bloquer le trafic dans le détroit d'Ormuz. Ça contribue à faire s'envoler les cours du pétrole. À ce propos, le premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé hier soir un plan de 500 contrôles dans les stations-service du pays dans les 3 jours à venir pour éviter, dit-il, des hausses abusives des prix à la pompe.
La guerre, ses frappes, ses morts, ses conséquences, on continue à en parler minute par minute dans notre direct. Rendez-vous sur RFI.fr.
ses premiers résultats en Colombie. Ils sont encore provisoires, mais ils donnent la gauche gagnante des élections législatives qui étaient organisées hier. Devant la droite, donc, la droite qui espérait en faire un scrutin test pour tenter de reprendre le pouvoir lors de la présidentielle. Elle sera organisée fin mai.
Il va devoir répondre de 142 chefs d'accusation.
Ce qui pourrait lui valoir jusqu'à 2430 années de prison. Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul jusqu'à son arrestation, comparaît aujourd'hui devant le tribunal de Silivri dans le nord de la Turquie, jugé dans une vaste affaire de corruption, accusé notamment d'avoir dirigé un important réseau criminel. Les opposants du pays voient surtout un procès politique pour l'empêcher de battre Recep Tayyip Erdogan à la prochaine présidentielle. On en parlera avec notre correspondante Anne Landauer en direct d'Istanbul après le journal de 7h en temps universel.
Elles attendaient cela depuis 12 ans.
12 ans de combat judiciaire douloureux pour les familles des victimes du crash du vol Air Algérie AH-57. C'était en juillet 2014. L'appareil s'écrasait dans le nord du Mali, 116 morts, dont 54 Français, 23 Burkinabés. Près de 12 ans plus tard, donc, un procès s'ouvre ce lundi en France, au tribunal correctionnel de Paris. Sur le banc des accusés, Swift Air, une société espagnole qui était propriétaire de l'avion et qui l'avait loué avec son équipage à Air Algérie. Sofiane Amazian.
Jugé pour homicides involontaires, Swift Air, compagnie aérienne espagnole, a retardé plusieurs fois l'échéance, repoussant la tenue d'un premier procès en France en 2023, après avoir saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin de suspendre la procédure en France, estimant que le drame résulte de facteurs externes, puis qu'un non-lieu aurait été prononcé en Espagne. Mais en novembre dernier, le tribunal correctionnel n'a pas voulu transférer l'affaire à la CJUE, confirmant la tenue d'un procès en France d'une durée de 4 semaines. Pas de soulagement, mais une récompense de la ténacité des familles de victimes, nous explique Suzanne Ayot, présidente de l'association AH-57 Ensemble. L'avocat de ce collectif, maître Sébastien Buzy, a confié à RFI que la partie adverse tentera ce lundi de mettre un terme aux poursuites en France en demandant une nouvelle fois l'extinction de l'action publique.
Et ce procès doit s'achever le 2 avril prochain.
Nouvel épisode dans le bras de fer entre Donald Trump et la justice américaine.
Et cette fois, ça concerne le démantèlement de la radio Voice of America par l'administration du chef de l'État. Illégal, dit un tribunal fédéral. Pour lui, l'agence chargée de superviser les médias publics n'avait pas l'autorité d'ordonner une réorganisation d'une telle envergure. Les explications depuis New York avec Loubna Anaki.
Le juge chargé de cette affaire est sans appel. Rien ne va. Selon lui, la nomination même de Carrie Lake à la tête de l'agence qui supervise les médias publics est, je cite, une violation brutale de la Constitution. Car la nouvelle patronne des médias publics, proche alliée de Donald Trump, a été nommée à son poste sans la nécessaire confirmation par le Sénat. Par conséquent, le juge estime que Carrie Lake n'avait pas le pouvoir de couper les fonds de Voice of America, de supprimer ses programmes ou de licencier en masse ses employés. Une vaste réorganisation entamée après le retour de Donald Trump au pouvoir. Avant cela, cette radio rassemblait plus de 360 millions d'auditeurs par semaine et émettait en 50 langues. Aujourd'hui, elle fonctionne avec des effectifs réduits et la grande majorité de ses programmes ont été supprimés. La Maison Blanche a immédiatement réagi pour dénoncer la décision de justice accusant le juge fédéral d'être, je cite, un juge partisan. Carrie Lake, elle, a fait savoir qu'elle ferait appel. De leur côté, les trois journalistes à l'origine de ce procès se sont félicités de cette première victoire, même si, pour le moment, la bataille juridique se poursuit et la situation des journalistes licenciés reste la même. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et puis le début du curling fauteuil ce lundi aux Jeux Paralympiques d'hiver de Milan Cortina. Beaucoup de ski alpin aussi, avec des médailles attendues en Super G dans plusieurs catégories, celle des déficients visuels notamment.
Gaëtan Plenet, le palmarès de ces Paralympiques. On y revient dans une heure dans le journal des sports de Victor Missistrano. Avant ça, à 6h43, il nous parlera du championnat de RDC et ce match entre le TP Mazembe et Saint-Éloi Loupopo qui a tourné au chaos hier. Rendez-vous dans une demi-heure. Lubumbashi, où il est 7h13, 6h13 à Paris, c'est le début d'une nouvelle matinée d'infos sur RFI que l'on va passer ensemble avec toute la rédaction, ravie de vous retrouver au 10e jour de la guerre entre l'Iran et du Hezbollah libanais contre Israël et les États-Unis. On va essayer encore ce matin de vous dépeindre au mieux la situation et au plus près les frappes israéliennes en Iran et au Liban, la riposte iranienne, mais aussi la nomination d'un nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Ali Khamenei, mort au premier premiers jours de cette guerre. On va aussi évoquer les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz sur les prix du gaz, du pétrole, mais aussi sur les importations pour des pays qui en dépendent grandement. C'est le cas des Émirats Arabes Unis. À Dubaï, cette femme n'est pourtant pas inquiète.
Je constate qu'il y a des rayons de bouteilles d'eau qui sont vides. Mais quand je vais promener mon chien vers 1h du matin, je vois que les employés sont en train de recharger. Ils apportent de nouvelles bouteilles d'eau, de nouvelles boîtes de conserve.
Voilà, pas d'inquiétude. Donc, ce reportage à écouter tout à l'heure à 7h. Ce matin, on appellera nos correspondants présents dans une grande partie des pays concernés par ce conflit, à commencer par l'Iran, évidemment. Siavosh Ghazi sera en ligne avec nous à 8h. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Votre invité ce matin à 7h20, l'un des responsables du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran.
Oui, il s'appelle Asso Hassanzadeh, il est juriste kurde franco-iranien. Et en ce 10e jour de guerre, on va lui...
Caché dans ton jardin secret, j'entends pousser des plaintes carnivores. Tu as regagné ta jungle sacrée, les vieux songes hurlent, leur centre dévore. Dans ton jardin secret, terre impénétrable. Jardin secret, terrain vague, à l'âme. La serre invisible s'est refermée. Je reste interdit, je ne peux pas. Impossible de s'y insinuer. J'attends aux aguets à l'entrée de la jungle. Jardin secret, terrain impénétrable. Jardin secret, terrain vague. Tu t'es caché dans ton jardin secret. J'entends pousser des plaintes carnivores. Tu as rejoint ta jungle sacrée. Les vieux songes hurlent leur centre des morts. Dans ton jardin secret. Jardin secret.
conneries, on se barre la route et on se bloque. Au lieu d'avancer, on stagne, on snap, moi je suis fort. Ça me fait gollerie, c'est quoi l'hip-hop? Si c'est un quartier, c'est pourri comme un bidonville et corrompu comme les chefs d'entreprise des villas de Beverly Hills. En plus de ça, c'est la crise, les gens font la crise, mine et speed comme un junkie camé à la coke. Comment veux-tu t'entendre avec des MC qui chient des lyrics sans toc? Je préférais me pendre ou bien vivre dans une zone radioactive. Mais c'est pas mon but, je préfère vendre mes disques et puis niquer le bise avec mes potes, arriver dans le rap en voiture blindée comme le pape.
L'armée des 12, jamais blindée comme le pape. Yo. Je serai pas dans le New York Times, BM Art avec un Yorkshire. Ni à Monaco sur la côte avec Charles dans un U-chair. Ingénieur rap comme Prince Charles Alexander. Je prise le but que prise Clint Smack face aux défenseurs. Des mecs sans oreilles, pas de Rod, pas de Fender. Genre connaisseur, pas de corde de Sennheiser. Si un rappeur sans voix, t'as pas de corde vocal center. Sur ton clavier de la merde, c'est ce qui sort quand t'appuies sur Enter. D'où je viens, d'où je date, donc la contrebande. L'armée des 12, Nick Fury glisse sur une autre pente. Vive, sans maille, sans sable, sans armes. Vive, mon rap en phase avec mon âme. À 100 à l'heure, sans maquer du trap. Vive, un clash avec la life, la vague ou tard.
Je fais de la black musique afin de me détendre. Et pour ça, rentre dans les enceintes de ta chambre ou celle de ta caisse. De l'intérieur, des boomers, concerts, des congresseurs, ma voix sort. Esquive les mecs, sans resserre, argument, dérive, l'immagistral, l'aise vert. Judo, c'est l'agilité même, toute hostilité, je gagne. Une coutume des TCN, faire kiffer les meufs fraîches, on aime. Les fesses rondes africaines sur des versions dites chromosomiennes. De kérosène, on asperge et brûle les mecs autopata. Voilà pas le nombre de connards dans la crevardise.
C'est high-tech, style aux pièces. Mec, pas besoin de pacemaker. Ceux qui me haïssent, mec, plaque les nerfs. Mac me perd avec le machiavélisme. Tu braques tes frères. Le crime, je le maquille avec le meurtre Mike. Qui donne une grosse panique à l'élite. J'éclate expert, suce Patrick, allez vite. Des mecs, je heurte au fight club et gravite à l'aveu. Tu flirtes au night club et tu palisses, je m'estime. Nice et parano jusqu'à là, je m'égale. Je sais que les obèses calent avec le col et c'est les rôles. Avec l'asphalte, connecte et je run. Des mecs explosent, je m'escale et plaque au sol. Un skin modeste et neutre, ne peine, molestez-le. Avec ses restes, on fournit 4 heures. C'est sûr, connectez-les, offrez les steaks. Du bon et fond, 4 heures. Au petit qu'on consiste, aux hommes microscopiques. Quelle folie, capteur. C'est qui que tu as dit?
La conscience, c'est la texte, excellence. Que c'est la caution, leur devis, prophétie. On fume les MC comme des garcis. Et ils sont tous morts comme garcis morts. Le rap des égouts pour faire danser les cafards avec les araignées. Dans les eaux troubles ou même les crapauds ne préfèrent pas se baigner. Le rap qui tranche les MC et me fume la réponse saignée. Dernier l'électricité statique, Aïkik ne s'est pas baigné. C'est pas le premier texte que j'écris en studio. Je vais pas le renier, mais cette fois-ci chaque petite particule de mon cœur vibre alors que j'articule mon couplet en souplesse. Kérosène, c'est là que le bas blesse.
Méfie-toi des gars sans contrat, avec des Walkman qui paiera, qui bootleg ton son sur MP3. La folie injectée dans les globules, ça déteint sur les cellules. Je véhicule des textes qui se calculent, toujours un pas de recul. Crise ce qui me calme, foudroie ce qui me mate. Mes phrases traumatisent les rappeurs de mes fesses, comme s'ils apercevaient leur grand-mère autoplaise. Laisse mon flow une Dreamcast, le tien une Mega Drive. Je slip trop la bonne claque, je crèche là où les prostituées fument le crack. Tous parqués comme un zoo, mais ton testostérone s'élève face au faux. De la rage comprimée en sop, comme c'est la caution lors des vibros. Sur une prise à contrebande versus tous les rivaux. Tous les rivaux.
La caution, des décès, prophétie, lors des vies. Comment je te mets si t'as des rides dans mon show? As-tu la voix pour t'emparer de mon micro? On m'a dit qu'un sur soi-disant au top niveau. Dans mon imagination t'as fait défaut. Aucune compréhension face à la prestation. J'appuie le temps et bien de me mettre mes visions. Ça me démarre toi à ton élimination. Lors des vies pas la répétition. Sur le MIC je n'ai aucune prétention. C'est MC qui proclame ton élimination. C'est MC qui proclame ton élimination. La contrebande mixtape.
They were all wrong. All you had heard were ghosts of the words in a song. Nothing to have when all that you want.